Bonjour à tous. Je ne verrai pas tout le monde aujourd'hui parce que je suis dans une disposition, configuration un peu différente. Simplement me faire des thumbs up, des pouces levés si le son vous parvient correctement, juste pour que je sache qu'effectivement ça fonctionne. Je vais voir si les choses ici sont en diffusion sur mes autres pages. Je vais m'assurer qu'un maximum de gens puissent nous voir. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne nuit tous et chacun et que vous êtes prêts au défi de cette nouvelle journée. Il y a quelqu'un que je dois saluer à tout prix, mon ami Georges, que Dieu te bénisse. Tu me manques, mon ami, mais je sais que tu travailles très fort, toi aussi. Et en passant, tu passes très bien à la caméra. Je t'ai vu aux informations il y a quelques jours, donc j'étais content de te voir. On va attendre encore 2 minutes pour débuter ce matin. Comme je vous dis, je ne vois pas nécessairement les choses trop bien défiler. Il y a Marc, Louise, le frère Edwin, la sœur Pascale, Daphné, ma chère et tendre épouse, Pamela, Marlène, Georges, que j'ai salué tout à l'heure, un collègue précieux. Il y a Léo qui est là, mais après ça, je ne sais pas qui est connecté. Vous êtes 14 et vous êtes plus que ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, je vous regarderai, je vous saluerai peut-être un peu plus tard. Mais ce matin, on veut encore une fois prendre un temps pour partager les Écritures. Plusieurs me disent que c'est un rendez-vous qui est maintenant constant pour eux. Je vais juste régler un petit truc qui m'embête sur la caméra. Voilà. Donc, tout est ouvert correctement. Donc, plusieurs me disent que c'est maintenant rendu un rendez-vous quotidien qu'ils prennent avec moi pour ce temps de méditation et de prière. Comme vous voyez, je suis à l'église ce matin. C'est un autre angle de mon bureau que vous ne voyez pas habituellement puisque je suis habituellement tourné de l'autre côté. Donc, vous voyez, et la décoration ne vient pas de moi. C'est quelques petits bibelots que j'ai ramenés ou qu'on m'a donnés d'ailleurs. S'il vous plaît, faut pas me ramener d'autres bibelots. J'ai suffisamment de décorations. Ma styliste ne serait pas contente si je rajoutais autre chose dans mon bureau. Donc, si vous voulez me ramener de quoi quand vous voyagez et quand vous revoyagerez, amenez-moi des petites gâteries. Ça finit plus long, ça finit plus vite, mais j'aime bien ça aussi. Donc voilà, je suis donc dans un autre angle du bureau simplement pour faire un peu changement et faire semblant que je suis à la télévision et que je me fais un petit décor simplement pour avoir quelque chose d'un peu plus beau à vous montrer. Donc ce matin, la méditation qui va être la nôtre va prendre sa base dans Marc au chapitre 4. Marc chapitre 4 du verset 35 au verset 41. C'est un texte qu'on connaît bien, c'est une histoire que l'on connaît bien. Jésus qui calme la tempête, mais on aimerait sortir quelques petits aspects peut-être sur lesquels on passe très vite, mais qui peuvent être importants pour nous tous. Donc on va prier pour débuter. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je vous rappelle, je viens de le dire, mais je ne suis pas capable de voir qui est connecté ce matin. Donc, vous me pardonnez de ne pas avoir cette gentillesse de tous vous saluer les uns après les autres. Hop, je viens de voir qu'il y a Mario du Nouveau-Brunswick qui nous suit. Dieu te bénisse. Content de t'avoir. Ça fait des années que nous ne sommes pas vus. Donc, je suis content de savoir que tu vas bien. Et on prie chaque province pour nos voisins et nos voisines. Que Dieu nous bénisse et que Dieu donc te bénisse aussi, Mario, au Nouveau-Brunswick. Donc sur ce, on va prier simplement pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu as suscité pour nous. Un moment, Seigneur, où tu nous donnes cet immense privilège de plonger nos regards dans ta parole et d'être rassasiés et abreuvés par ta parole. Ce matin, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons encore besoin de toi. Arrivera-t-il, Seigneur, un jour où nous n'aurions pas besoin de toi? Impossible. À tous les jours, Seigneur, lorsque tu nous accordes le souffle de vie, ce n'est que pour reconnaître que nous ne sommes rien sans toi, que nous ne pouvons rien sans toi, et que nous avons besoin de ta grâce, de ta miséricorde et de ton intervention envers nous. Alors ce matin, Seigneur, nous te prions que tu viennes nous visiter, chacun là où nous sommes, que ce soit, Seigneur, moi ici au bureau, à l'église, ou que ce soit, Seigneur, mes frères et mes sœurs dans leur domicile, pour d'autres au travail. Nous te demandons, Père éternel, de nous visiter tous et chacun, et de nous accorder cette grâce qui vient de toi, de saisir ta pensée, de saisir ton cœur, de saisir ta parole pour aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, que cette parole soit pleine de sens et pleine d'efficacité pour notre journée. Alors nous te bénissons de ce que tu nous as rassemblés, nous te bénissons de ce que tu nous as accordé le souffle de vie, nous te bénissons de ce que tu prends soin de nous, et nous te bénissons, Seigneur, de ce que ce matin encore, tu nous rassasies. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors sur ce, donc, dans Marc au chapitre 4, pour ceux qui viennent de se joindre à nous, Marc chapitre 4, et j'aimerais lire pour vous, donc du verset 35 au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait d'eau. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssions ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Jésus étant aussi Dieu, étant 100% homme et 100% Dieu, savait pertinemment tout ce qui allait se passer. La tempête qui va survenir dans les minutes ou dans les heures qui vont suivre, alors que ses disciples et lui sont en train de traverser la mer de Galilée, n'est pas inconnu. Jésus, même si les stations météorologiques de l'époque étaient probablement inexistantes, mais Jésus n'est pas surpris par la tempête. C'est pas quelque chose qui tombe sur lui et sur ses disciples sans qu'il ne l'ait su. Et la grande question, ou deux grandes questions qui se posent tout d'abord pour nous aujourd'hui, c'est: quelle est ta situation et qu'est-ce que Jésus dit de ta situation? Ici, la situation, c'est que Jésus dit « Passons de l'autre bord ». Alors, les disciples qui commencent à traverser le font sous la directive et sous la parole et sous la demande de Jésus. La question que toi et moi, on doit se poser par rapport à nos vies aujourd'hui, est-ce que nous sommes exactement là où Dieu nous voulait? La difficulté qu'on rencontre régulièrement, c'est que on s'aventure dans une voie, on s'aventure dans un chemin, et par la suite, une fois qu'on a déjà initié notre traversée, ben là, on se tourne vers Dieu. La plupart du temps, lorsque les nuages sombres commencent à s'amonceler et qu'on commence à avoir peur, on se tourne vers Dieu en demandant si Dieu pourrait effectivement bénir notre chemin. Ici, à la base, les disciples sont dans la volonté de Dieu. Ici, à la base, les disciples sont dans la volonté de leur maître Jésus. Et la question pour toi est à savoir, es-tu effectivement dans une partie de ta vie aujourd'hui, dans un secteur de ta vie, dans une journée de ta vie où tu peux dire effectivement, je vis dans la volonté de Dieu? Es-tu effectivement impliqué dans les choses que Dieu avait pour toi, ou es-tu en train de t'aventurer quelque part que Dieu n'avait pas prévu, n'avait pas pensé, n'avait pas plutôt planifié pour toi, mais toi tu veux forcer la volonté de Dieu à accepter le chemin dans lequel tu es? Ici, les disciples devaient être convaincus. Nous n'avons pas décidé de traverser tout seul. Nous n'avons pas décidé de nous aventurer sur le chemin. C'est Jésus qui nous a demandé d'y aller et nous avons suivi. Alors la première chose que tu dois t'interroger à savoir aujourd'hui, suis-je dans la volonté de Dieu? Maintenant, qu'est-ce que dit Jésus de la situation des disciples? La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, Jésus qui est à la fois homme et à la fois Dieu, 100% homme et 100% Dieu, et dans cette histoire, il va effectivement manifester son côté 100% homme, mais aussi son côté 100% Dieu. Et dans cette situation, ben, Dieu a dit, passons de l'autre bord. Jésus a dit, on va traverser. Il n'a pas dit, on va traverser en partie. Il a dit, on va traverser. Il a bien sûr pas dit comment allait se passer la traversée. Mais Jésus a fixé la destination. Et Jésus ne ment pas. Donc si Jésus dit à ses disciples, nous allons passer de l'autre bord, alors les disciples doivent s'attendre à passer de l'autre bord. La tempête va les surprendre eux, mais ne surprendra pas Jésus. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu ne peux pas baser ta foi si ça ne vient pas de quelque chose que Dieu a prononcé. Alors le chemin où tu te trouves aujourd'hui, y es-tu allé par aventure? Y es-tu allé par témérité? Y es-tu allé par hardiesse mal placée? Ou es-tu là où tu es parce que Dieu t'a dit d'y aller? Dieu a-t-il confirmé de façon claire, de façon précise, que le chemin où tu te trouves aujourd'hui est effectivement celui qu'il avait pour toi? Alors tu peux avoir pleinement foi si tu es convaincu que Dieu a parlé. Foncièrement, régulièrement dans nos vies, malheureusement, ce n'est pas le cas. Foncièrement et régulièrement, ce qui se passe chez nous, c'est que effectivement, on débute et par la suite, on se tourne vers Dieu en demandant « Aie grâce, fais-moi compassion, fais-moi grâce ». Délivre-moi de ce pétrin dans lequel je me suis moi-même plongé. Et si Dieu n'intervient pas, ben là on dit, ah, il est méchant, il est mauvais, il est ci, il est ça. La question pour toi et pour moi, nous sommes serviteurs du Seigneur, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes disciples du roi des rois. La question pour toi, es-tu effectivement là où Dieu t'a demandé d'être? Verset 36. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Fait intéressant. Ils emmenèrent Jésus dans la barque où Jésus se trouvait. Pas dans une autre barque. Ils n'ont pas fait débarquer Jésus de sa barque pour l'amener dans leur barque. Mais eux sont montés dans le bateau de Jésus. Combien de fois on veut tirer le Seigneur dans notre barque? On veut tirer le Seigneur dans notre bateau au lieu de prendre le bateau du Seigneur? Combien de fois on veut imposer notre volonté à Dieu au lieu que nous n'embarquions dans la volonté de Dieu? Combien de fois on demande à Dieu d'épouser notre choix, notre désir, notre volonté, notre intrépidité au lieu d'embarquer nous et de nous soumettre nous à la volonté parfaite de Dieu? Ici, les disciples ont fait quelque chose de bon. Ils n'ont pas débarqué Jésus de sa barque. Ils ont embarqué dans la barque, dans le bateau de Jésus. La question pour toi, qui est le propriétaire de la barque? Est-ce que c'est toi ou c'est Jésus? Eux sont allés dans la barque du propriétaire Jésus. Est-ce que Jésus est effectivement propriétaire de la barque dans laquelle tu te trouves? Ou le propriétaire foncièrement, c'est toi? Est-ce que c'est toi qui mènes ta vie en implorant que Dieu te fasse grâce d'embarquer dans ta barque? Ou as-tu abandonné ta barque pour suivre Jésus dans sa barque, dans son périple, dans son chemin? Les disciples ne forcent pas Jésus à embarquer dans leur barque, mais ils montent plutôt dans la barque de Jésus avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Ça, c'est le verset 37. Beaucoup de chrétiens pensent ou professent que lorsque tu es chrétien, tu n'as plus de pépins. Du jour au lendemain, tout va bien, la santé va bien, le travail va bien. L'herbe de ton voisin peut mourir au soleil durant l'été, mais la tienne, il n'y a pas de verre, il y a tous les nutriments corrects sans que tu fasses quoi que ce soit. Tu n'es même pas obligé d'arroser ton terrain, que l'herbe, ton gazon est vert, 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 vert. C'est pas biblique. C'est aucunement biblique. Il n'est dit nulle part que parce que l'on est chrétien, parce que nous sommes chrétiens, qu'on n'aurait pas à traverser la tempête. De toute manière, ici, est-ce que Jésus avait dit que la traversée serait calme? Non, il a juste dit qu'il allait avoir une traversée. Quelles que soient les conditions de la traversée, Jésus ne les a pas mentionnées. Jésus ne les a pas annoncées, ces conditions. Lui savait effectivement qu'il y aurait une tempête. Mais la seule chose que les disciples devaient savoir, c'est Jésus nous a dit qu'on allait traverser. Jésus nous a dit qu'on allait arriver à destination. Jésus nous a dit qu'on allait arriver effectivement à bon port. Alors aujourd'hui, il ne faut pas s'étonner qu'on passe à l'occasion, voire régulièrement, par des tempêtes. La chose qu'on doit s'assurer, c'est sommes-nous dans la volonté de Dieu, oui ou non? Nous a-t-il parlé pour qu'on s'aventure ou qu'on s'avance dans ce chemin, oui ou non? Et si oui nous a dit de nous avancer, alors nous savons que nous arriverons à bon port. Verset 38. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Maître, ne t'inquiètes-tu pas qu'on est en train de mourir? » La tempête va révéler plusieurs choses sur les disciples. La tempête va révéler les limites du disciple. Qu'est-ce que la tempête que nous sommes en train de traverser, qu'est-ce que la tempête que tu traverses ou que tu traverseras révélera de toi? Dans le cas des disciples, la tempête va révéler les limites de leur foi en Dieu. Ils avaient foi lorsque Jésus leur a dit « on traverse ». Mais lorsque la tempête a commencé à mugir, lorsque la mer a commencé à secouer la barque, lorsque la pluie a commencé à tomber, lorsque les vagues ont commencé à remplir leur embarcation, ils ont atteint la limite de leur foi et là ils se sont tournés vers Dieu en disant, vers Jésus en disant, mais est-ce que ça t'inquiète pas? Ce faisant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils étaient en train de dire à Jésus, hey! Est-ce que tu ne nous aimes pas? S'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose maintenant, ça serait toi. Vas-tu nous laisser périr? Et combien de fois on a la même attitude? La tempête se déclenche et on se tourne vers lui avec la phrase que peut-être nous n'avons jamais utilisée, que d'autres ont utilisée, qu'on a entendu dans la voix d'autres personnes, mais que foncièrement, nous, on n'a jamais utilisée, mais une phrase telle que « Ben, je pensais que tu m'aimais. Ben, je pensais que tu étais amour. Ben, je pensais que tu étais bon. Seigneur, n'as-tu pas dit que... » La foi va être éprouvée par la tempête. Et c'est une bonne chose, parce que la foi ne s'éprouve pas dans les temps faciles. Les limites de ta foi ne seront pas révélées par les périodes ensoleillées et le vent calme et la petite brise fraîche. Ta foi va être révélée dans sa portée totale à travers la tempête. Et le défi pour toi et pour moi, c'est que notre foi soit capable d'aller outre la tempête. Ici, les disciples, leur foi n'a pas été capable de traverser la tempête. Ils se sont vus périr, ils se sont cru en train de périr, et ils ont cru qu'effectivement leur maître, leur Seigneur, qui leur avait dit « traversons », était là en train de les abandonner et qu'ils s'en balançaient foncièrement de ce qui pouvait leur survenir ou leur arriver. La tempête va révéler les limites de ta foi en Dieu? Lui fais-tu confiance ou ne lui fais-tu pas confiance? Crois-tu vraiment que malgré la tempête, il t'aime? Moi, je peux vous parler de mon expérience personnelle. Lorsque j'ai appris le diagnostic du cancer et dans ma toute première prière à Dieu, la prière où je lui disais, Seigneur, c'est correct, tu fais comme il te plaît, je te fais confiance. Mais ma prière a aussi dit, Seigneur, hier, je disais que tu étais bon. Alors, je veux que ce soit clair entre toi et moi, Seigneur, tu es bon. Seigneur, je te fais confiance. Peu importe quelle est la fin du trajet, je te fais confiance, tu es, tu restes et tu seras toujours bon. Et ça, c'est toi qui peux le dire, c'est tes lèvres qui doivent le proclamer, c'est pas ton pasteur, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari, ce n'est pas les anciens dans l'église, c'est une chose entre toi et Dieu. Mais l'épreuve révélera effectivement quel type de foi, quelle est la portée de ta foi. Verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Je te pose la question, dans cette situation que tu vis, Dieu doit-il se manifester pour que tu continues à croire en lui? Dans la tempête que tu traverses, Dieu doit-il obligatoirement déployer sa gloire pour que tu continues à croire en lui? Est-ce que parce que Dieu ne déploie pas sa gloire, il n'est plus tout puissant? Ou reste-t-il tout puissant devant toi, dans ta pensée, dans ton cœur, dans ton âme, comme une certitude, même s'il décidait de ne pas intervenir? Voilà le type de foi qui est recherché par Dieu. Voilà le type de foi que Shadrach, Meshach et Abednego avaient. Lorsqu'on les a menacés de les jeter dans la fournaise ardente, le roi va leur dire, quand la trompette va sonner, faites comme tous les autres, mettez-vous à genoux devant ma statue. Sinon, quel Dieu pourra vous délivrer? Et eux ont dit, ô roi, sache une chose, notre Dieu a toute la puissance de nous délivrer, mais s'il ne le faisait pas, nous ne plierions pas les genoux devant toi. Donc, ces trois compagnons qui vont effectivement être jetés dans la fournaise ardente disaient, notre Dieu reste tout puissant. Notre Dieu peut effectivement nous délivrer, mais s'il en avait décidé autrement, s'il avait décidé qu'on doit passer par la tempête et que dans cette tempête, il nous arrivait quelque chose, sache une chose, nous ne plierons pas les genoux devant toi, parce que nous croyons et demeurons convaincus de qui est notre Dieu. Est-ce que c'est ce genre de foi qui te lie à Dieu, ou la foi que tu as est dépendante des circonstances, des situations favorables que tu as ou que tu n'as pas? Verset 40. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » La foi des disciples, comment aurait-elle dû se manifester dans cette tempête-là? Je pose la question. Jésus, on le réveille, on lui dit, « Hey, debout maître, on est en train de couler, est-ce que ça ne te fait rien? » Jésus se lève et menace la tempête. Et la tempête se tait, la mer se tait, la mer se calme, les vagues arrêtent, la pluie cesse. Et Jésus leur dit, vous avez manqué de foi. Mais s'ils avaient eu la foi se serait manifestée comment? Certains vont dire, ben, ils auraient pris leur autorité et ils auraient fait taire la mer. Ce que Jésus a utilisé là pour faire taire la mer, ce n'est pas la foi. Ce que Jésus a utilisé pour faire taire la mer, c'est l'autorité. Et l'autorité n'est pas la foi. La foi dans la vie de ses disciples se serait manifestée si malgré la tempête, ils avaient laissé dormir Jésus tout calmement et tout paisiblement en se disant, il nous a dit que nous allons traverser. Alors même si le vent se met à rugir, même si la mer se met à mugir, même si les vagues se mettent à remplir la barque, il nous a dit que nous allions traverser de l'autre bord. La foi n'est pas de calmer la tempête, Mais la foi est de croire qu'effectivement, on va arriver de l'autre bord. Je répète, la foi, ce n'est pas calmer la tempête. La foi, c'est rester ferme malgré la tempête. Regardez tous les textes, tous les exemples dans Hébreux au chapitre 11. Dans Hébreux au chapitre 11, on ne nous parle pas de victorieux. On ne parle pas de gens qui ont fermé la gueule d'ennemis ou autres. On nous parle d'hommes et de femmes qui ont affronté presque tous des moments difficiles. On nous dit que même certains d'entre eux ont eu à périr comme martyrs. Et même s'ils ont péri comme martyrs, on nous fait l'éloge de leur foi. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que la foi aurait dû se manifester? Et là, ils sont dans le stade, dans l'arène, on lance les fauves, on lance ceux qui veulent les tuer, et d'un coup de amen et de au nom de Jésus, ceux qui veulent les tuer se mettent à mourir eux-mêmes, les lions se transforment en petits minets qu'on peut flatter, tout ça. Non! La foi, c'était de croire que peu importe ce qui m'arrive, Dieu reste Dieu, Dieu continue à être qui il dit qu'il est, et Dieu continue à m'aimer, et Dieu continue à veiller sur moi, même si je devais périr dans l'arène, même si je devais périr dans la fosse aux lions, même si je devais périr dans la fournaise ardente, même si je devais périr dans cette barque qui est secouée par le vent et par la mer. Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent la mer et le vent ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» La grande question pour toi et pour moi, c'est qu'est-ce qu'on va retirer de cette période de tempête ? Je crois que toutes les situations de nos vies, bonne ou mauvaise, même les situations dans lesquelles on a foncièrement plié les chines, dans lesquelles on s'est écrasé au sol, dans lesquelles on a été un célèbre fiasco. Je crois que chacune de ces situations devrait et peuvent servir à quelque chose d'approprié. Si on apprend au moins comment ne pas répéter la chose, c'est déjà un acquis. Si on apprend quelque chose d'une situation, même là où on a échoué, ça veut dire qu'on n'a pas nécessairement perdu notre temps. Le drame, ça serait de ne pas apprendre quoi que ce soit d'une situation donnée. Le drame, ça serait de passer à travers une tempête et de ne pas apprendre quelque chose. Le drame, ça serait que tu échoues dans une activité quelconque et de cet échec, tu n'aies pas appris quelque chose. Parfois, l'échec vient effectivement pour nous apprendre quelque chose. Ici, les disciples vont apprendre différentes choses. Un, ils vont découvrir réellement qui est Jésus et ils vont découvrir aussi réellement qui ils sont. La tempête a effectivement révélé l'état de leur foi, un état qui était inférieur à ce que Dieu voulait, à ce que Jésus estimait acceptable et un état inférieur à ce à quoi ils étaient appelés à atteindre et à vivre. Donc cette tempête leur a fait découvrir qui ils étaient. Deuxièmement, ils ont découvert Jésus. Pour l'instant, ils connaissaient Jésus comme un grand prophète, un grand maître, un grand enseignant qu'ils aimaient sincèrement. Mais jusqu'à ce moment-là, Jésus, bien qu'il avait fait des miracles, n'avait pas fait quelque chose qui était unique. Mais dans ce moment précis, lorsqu'il va se lever et commander la mer, commander le vent, il va faire des choses qui n'étaient pas données à un homme. Deux passages qui nous illustrent la chose ce matin. Premièrement, dans Psaume au chapitre 89, pour ceux qui prennent des notes, Psaume 89, le verset 9 et 10. David va dire, Éternel Dieu des armées, qui est comme toi puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Ici, David est en train de parler de l'Éternel. Et il dit, Tu es celui qui est capable de calmer la tempête. Tu es celui qui calme les flots lorsque ceux-ci se mettent à mugir. C'est toi, Éternel, qui les apaise. Si vous tournez la page au chapitre 93, le verset 4, psaume 93, le verset 4, David va dire cette fois-ci, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux. Il est en train de parler de la mer qui rentre en furie. Plus que la voix des grandes eaux et des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. On est en train de dire que Dieu est encore plus puissant que la mer la plus agitée qui soit. Que Dieu est encore plus puissant que les flots les plus impétueux qui soient. Ici, Jésus, dans le chapitre qui a été le nôtre dans notre lecture initiale dans Marc au chapitre 4, lorsqu'il calme la tempête, il est en train de montrer sa divinité. Il est en train de montrer qu'il est effectivement celui qui a tout pouvoir ici-bas sur terre et là-haut dans les cieux. Lui-même qui va plus tard dire, tout pouvoir m'a été donné ici sur la terre comme là-haut dans les cieux. Jésus va le manifester. Donc Jésus va révéler à ses disciples non seulement sa nature humaine lorsqu'il dormait à la poupe de la barque, mais aussi sa toute-puissance divine lorsqu'il se lève et qu'il calme la tempête et qu'il fait taire le vent. Donc la tempête va te permettre non seulement de te découvrir à toi, mais probablement de découvrir aussi ton Dieu dans une facette que tu ne le connaissais pas. Je peux vous parler de mes propres tempêtes, des tempêtes que j'ai vécues en tant que patient dans le système de la santé, en tant que patient en oncologie, atteint d'un cancer qui était virulent. J'ai senti, j'ai découvert Dieu comme jamais auparavant. Et je ne vous parle pas du fait qu'il m'aurait guéri ou pas. Je vous parle de cette proximité, de cette compassion, de cette grâce qu'il nous fait de se tenir à nos côtés, même dans les moments les plus difficiles. Pour moi, il n'était pas important de savoir qu'est-ce qui allait arriver à la fin de mon parcours. Ce qui était important, c'était de savoir que la présence du Dieu Tout-Puissant, une présence qui réconforte, une présence qui apaise, soit vraiment là à mes côtés. Et j'ai découvert, j'ai compris, j'ai découvert ce verset qui disait qu'il nous donne une paix qui surpasse l'entendement, une paix qui est illogique. Je regardais tous les autres patients qui étaient éprouvés, qui étaient inquiets, et moi j'avais ce sourire greffé au visage, j'avais cette paix à l'intérieur et je faisais pas semblant, mais pour une première fois de ma vie, je sentais et je ressentais et je découvrais la présence intime de Dieu comme jamais auparavant. Donc la tempête te permet aussi de découvrir Dieu d'une nouvelle façon. La tempête va aussi te permettre de découvrir la grâce de Dieu. Ici, les disciples reconnaissent maintenant que Jésus, effectivement, a la toute-puissance de Dieu en lui qui calme la tempête. Mais ils savent une chose, et c'est pour ça qu'on va nous dire qu'ils sont saisis d'une grande frayeur. Ici, grande frayeur, c'est le terme phobé qui veut dire qu'on va utiliser pour sortir des mots contemporains comme phobie, une grande peur, une grande terreur. Mais pourquoi sont-ils terrorisés? Parce qu'ils savent que nul ne peut voir Dieu et rester vivant. Dans leur background, dans leur historique religieuse, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas voir la toute-puissance de Dieu et rester vivant. Et là, étonnamment, la mort n'arrive pas. Étonnamment, ils arrivent même de l'autre côté du cours d'eau. Étonnamment, ils arrivent à destination alors que, un, ayant manqué de foi, deux, ayant vu la toute-puissance de Dieu, ils auraient dû mourir et ils restent vivants. Donc à ce moment-là, dans cette tempête, ils arrivent aussi à découvrir la merveilleuse, somptueuse et tellement importante grâce de Dieu. Alors je prie que dans ta tempête, que tu puisses découvrir Dieu et que tu puisses aussi découvrir la grâce de Dieu qui te soutient et qui se manifeste avec toi encore aujourd'hui. Et ils vont finir avec cette question, mais quel est donc celui à qui obéissent le vent et la mer? Cette question qui veut dire, mais je veux connaître davantage ce Jésus. Je veux apprendre à le connaître davantage. des disciples qui sont maintenant aux pieds de leur Seigneur, aux pieds de leur Maître, comme ayant les regards sur lui en disant, qu'est-ce que tu vas nous dire, Seigneur? Que dois-tu nous apprendre, Seigneur? Donne-nous ton enseignement. Donne-nous, Seigneur, tes prescriptions. Donne-nous, Seigneur, le chemin à suivre. La tempête, soit elle va t'éloigner de ton Seigneur, soit elle va te rapprocher de ton Seigneur. La tempête a cette faculté profonde de révéler ce que tu es vraiment. Et face à cette révélation de ce que tu es, tu vas avoir un choix important. Soit tu restes connecté à Jésus, soit tu restes accroché à Jésus, ou tu l'abandonnes. Les disciples ont fait tout le parcours qui a suivi pendant 1, 2 ou 3 ans par la suite, jusqu'à la mort de Jésus. Alors je prie qu'à travers la tempête que nous traversons en tant que société, nous venions à rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs dans toute sa grâce et dans toute sa puissance. Je prie que dans la tempête qui peut être la tienne aujourd'hui, tu viennes à rencontrer le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qui se lève dans ta barque et qui a toute la puissance, tout le pouvoir, toute l'autorité pour faire calmer la tempête, pour dire au vent de se taire. Mais je prie que même si le vent continuait, je prie que même si ton bateau venait à couler, je prie qu'à l'instar de Shadrach, Meshach et Abednego, tu aies pris cette décision de dire, Seigneur, peu importe, je te suis jusqu'à la fin. Peu importe, Seigneur, je sais que tu es bon, que tu es puissant, que tu es grand. Cette tempête ne change pas qui tu es. Seigneur, cette tempête ne change pas qui je sais que tu es. Seigneur, cette tempête ne révélera pas que je suis un fuyeur. Cette tempête ne révélera pas que je suis un lâcheur. Mais cette tempête, Seigneur, va révéler combien je suis dépendant de toi et combien, Seigneur, je reste accroché aux pans de ta robe parce que j'ai besoin de toi. Est-ce que ça va être ta prière aujourd'hui? Seigneur, peu importe les nouvelles qui vont nous être données. Seigneur, peu importe ce qui surviendrait dans ma vie aujourd'hui. Je fais ce pacte, cette alliance avec toi, Seigneur. Je serai à tes pieds pendant, avant et après la tempête. Je ne bougerai pas, Seigneur. Là où tu seras, je serai accroché à toi parce que tu es mon Seigneur, parce que tu es mon Sauveur, parce que tu es mon Dieu. Laissez-moi prier pour vous ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons pour cette exhortation. Et je prie pour mon frère et ma sœur. La tempête qu'il traverse actuellement, la tempête qu'elle peut traverser, ou la tempête qu'ils s'apprêtent l'un et l'autre à traverser sous peu, ou dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Je prie, Seigneur, que cette tempête les trouve forts et fidèles dans la foi. Je prie, Seigneur, que leur foi ne défaille point. Tu as prié, Seigneur, pour les disciples, tu as prié pour Pierre en disant, j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point. Seigneur, je sais que tu intercèdes pour nous, que tu as intercédé pour nous, afin que notre propre foi ne défaille point. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, et j'ai cette même prière, Seigneur, que leur foi ne défaille point. Seigneur, nous savons que tu as de la toute puissance pour nous délivrer. Je sais, Seigneur, que tu as le mot exact pour calmer la tempête. Mais je veux te dire, Seigneur, que même si cette tempête ne se calme pas, je ne plierai pas les genoux devant quelqu'un d'autre que toi. Je veux te dire, Seigneur, et je veux que ce soit clair entre toi et moi, Seigneur, et je veux que les autorités spirituelles, tout comme les hommes de cette terre, sachent que je ne céderai pas à la pression, mais que je resterai, Seigneur, à tes côtés, ad vitam aeternam. Seigneur, je n'abandonnerai pas. Je sais que c'est ta barque, je sais que tu es au contrôle, et je sais, Seigneur, que tu m'as appelé à traverser cette mer en furie, et que tu me garderas jusqu'à l'autre bord. Alors, Seigneur, je prie pour la foi de mon frère, je prie pour ta bénédiction sur sa vie, et que cette foi, Seigneur, soit si puissante en eux qu'elle illumine leur visage, qu'elles remplissent leur bouche et que les gens autour d'eux, Seigneur, n'aient d'autre choix que de leur demander « Mais comment tu arrives à être aussi calme? Comment tu arrives à être si joyeux? Comment arrives-tu à être si paisible? » Et qu'il n'ait aucun doute et aucune hésitation pour parler de celui qui est la source de leur paix, qui surpasse toute intelligence, celui qui est la source de cette joie qu'on ne peut pas imiter, celui qui est la source de ce calme qu'on ne peut pas feindre. Merci Seigneur de bénir ma sœur, merci de bénir mon frère, nous t'avons prié en ton nom Jésus. Amen. Alors laissez-moi saluer tous ceux que je suis capable de voir. Daphné, Edwin, 8 personnes, je ne sais pas c'est qui, mais je vous bénis. Le frère Léo, Daniel, Mario, Millie, Chepe, Marlène, le frère Claude Bernard, Alex, la hermana Myriam, la hermana Flori, certainement que votre époux est à côté de vous aussi, Yann, la sœur Denise, le frère Guy, Andrés, Louise, à Laval, je dis à Laval parce qu'il y en a une autre qui est à Terrebonne, donc mon père, Isaac, que Dieu te bénisse, la sœur Denise, le frère Gérard, je suppose que la sœur Françoise, si je me rappelle bien, ou Francine, est avec vous de Sainte-Adèle. Jay, Dieu te bénisse, de Nouvelle-Calédonie. Oh, on est content de t'avoir, sois béni. Donc Alain, la sœur Louise, cette fois-ci, de Terrebonne-Mascouche. La sœur Jocelyne, avec le frère Jacques. Juan Ramon, que Dieu te bénisse, Ramon. Gaël, Dieu te bénisse. Natacha, Dieu te bénisse. Raquel, en Floride, sois béni. Natacha, bonjour. Jacques, Dieu te bénisse. Salutations à Nenji de ma part. Daphnis, que Dieu te bénisse. On espère que bébé arrive sous peu. Mauro, Dieu te bénisse. On est content de t'avoir. Jonathan, donc probablement ma belle-mère Mireille aussi qui est là. Le frère Mehandra qui est là. Soyez bénis. Max. Rachel, Dieu te bénisse, l'épouse du pasteur de l'église juste à côté de nous. Sois béni, que votre église réparateur de brèches soit fortement encouragée et que vous soyez malgré tout des instruments pour le Seigneur en dépit de la tempête. Et que Dieu bénisse aussi vos deux entreprises. Denise, Laetitia, Dieu te bénisse. Pamela, Dieu te bénisse. Oh, la sœur Nina, Dieu vous bénisse. Bonjour au frère Rigoberto, Léo, Pascal, Dieu vous bénisse, Rachel et les personnes qui sont avec toi. Quelqu'un que je ne connais pas qui s'appelle Weshi, Dieu vous bénisse. La photo est trop petite donc je ne peux pas identifier qui est la personne. La sœur Bernadette est là aussi. Je vois que la sœur Agnès Sarkasson est là. Donc à vous tous, soyez bénis. J'espère que vous avez été encouragés par cette parole et puis encouragez les gens autour de vous. Faites un ou deux appels simplement pour dire aux gens, « Hey, permets-moi de prier 30 secondes avec toi. Permets-moi de t'encourager 30 secondes. La tempête, on va passer à travers. » Les Québécois ont sorti ce slogan, « Ça va bien aller. » Moi, je peux vous dire, ça va bien aller. La tempête risque d'être forte. La tempête risque de secouer la barque, mais ça va aller. Parce que celui qui est à la tête de cette barque est Jésus. Et il a encore la toute-puissance pour calmer la tempête. Alors sur ce, bonne journée à tous. J'étais content de vous avoir avec moi. Et on se retrouve donc ce soir pour l'étude biblique à 19h. On va étudier une première partie donc du sermon sur la montagne. La semaine dernière, on a vu l'introduction. Alors aujourd'hui, on va voir les premiers enseignements de Jésus dans le sermon sur la montagne. Sur ce, donc je répète, 19h ce soir, on se connecte. Et puis pour les autres qui ne peuvent pas, vous pouvez revenir demain matin pour notre bénédiction matinale, toujours rendez-vous à 8h30 le matin. Soyez bénis et à bientôt à tous!